deux ans avant la fin de mes années de compétition, j'avais acheté un appareil photo sous-marin pour faire des photos, juste pour faire des souvenirs des compétitions et des moments qu'on passait avec les copains. Et très vite, en fait, ces photos ont plu. Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'un apnéiste prenait des photos d'autres apnéistes. Donc le regard sur la discipline était différent que les autres photographes en plongée traditionnelle. Quand j'ai arrêté, à l'époque, je descendais à la palme, donc quoi, constant, c'était 80 mètres. Et 100 mètres, je les ai fait, mais dans une autre discipline. Une descente à 80 mètres, donc aller-retour, on est à peu près à 2 minutes... 2 minutes 20 en piscine sans bouger, donc en ce qu'on appelle l'apnée statique. Donc, j'étais à autour des 7 minutes. Le plus dur, c'est de réussir à justement manager cette attente et justement de rester concentré. Donc, au moment où la fenêtre météo va s'ouvrir, de faire le job. Et voilà, et ça, c'est un truc qu'on peut transposer dans la vie de tous les jours. Et il faut être prêt, il faut être toujours prêt.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Frédéric Buil. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Alors, succinctement, je suis apnéiste. Né en 1972. Et voilà, apnée, ça regroupe beaucoup de choses. Mais donc, depuis tout petit, j'ai pratiqué la plongée en apnée qui m'a permis d'avoir un parcours de vie qui s'est articulé autour de cette activité. Et voilà, qui m'a amené dans pas mal de domaines différents.
Et alors, l'apnée commence quand pour toi? C'est quoi les premières descentes?
Alors pour moi, l'apnée a commencé très tôt, depuis que j'étais tout petit. En fait, mes parents passaient pas mal de temps tous les ans sur un voilier, passaient 3 mois à peu près. Eux ne plongeaient pas du tout, mais j'ai toujours été attiré par ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir de la surface de l'eau. Et donc forcément, quand on est tout petit, on va d'abord découvrir l'activité par les livres et tout ça. Et puis, à un moment, on se jette à l'eau. Et pour aller sous l'eau, la manière la plus facile, la plus naturelle, c'est évidemment la plongée en apnée. Donc, quand on est tout petit, moi, ça a commencé, j'avais 7 ans à peu près. Okay. Donc, on met un masque, tu bats des petites palmes et c'est parti et on part explorer. Donc, au départ, évidemment, on va juste se balader à la surface de l'eau. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de descendre un peu. Et puis, vers l'âge de 9-10 ans, j'ai appris comment compenser les oreilles. Et puis, c'était parti. Et donc, ça a été une passion très, très vite. J'ai été complètement accro à ça. Et donc, tous les ans, quand on retournait en mer ou pendant d'autres voyages, je passais le plus de temps possible dans l'eau. Et très, très vite, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je voulais faire.
Ah oui, et le temps que tu passes, si tu sais estimer ça peut-être à l'époque, c'est quoi? C'est une fois par semaine ou c'est de temps en temps dans l'année? Comment tu saurais estimer ça?
Alors à l'époque, quand j'étais petit, c'est quand on partait en voyage avec mes parents. Donc en bateau, généralement l'été, on passait 2 mois et demi sur le bateau. Ou alors, quand on voyageait autre part. Donc pendant l'année, vu que je vivais à Bruxelles, c'était évidemment plus compliqué. On avait la piscine, mais c'est pas ça quand même. Et plus tard, quand je suis devenu ado et tout, j'ai essayé de pratiquer plus souvent, que ce soit même en Belgique, dans les lacs, carrières, tout tout ça. Donc, ouais, à partir de l'âge de 15-16 ans, ça m'a vraiment motivé. Et là, j'essaie de passer le plus de temps possible dans l'eau.
Moi, j'avais une question effectivement par rapport au ressenti que tu vas avoir quand tu descends sous l'eau. J'en ai fait que très peu de la plongée, donc avec tuba bien sûr souvent, mais dans le sens avec oxygène, etc. Je suis pas allé pousser le modèle de tous les diplômes que certains sont passionnés d'avoir. Et simplement, les fois où je l'ai fait, quand on descend, moi j'ai l'impression de, au moment où on passe la surface de l'eau avec les yeux, dans le corps on sent pas trop, mais au moment où on passe les yeux, j'ai l'impression que ça fait une espèce de deuxième monde qu'on redécouvre. Et donc on arrive dans un endroit où en fait on est comme absorbé par finalement quelque chose de, je sais pas, de nouveau quoi, un nouveau monde qu'on connaissait pas avant. Je sais pas si tu ressens ça aussi.
Alors oui, évidemment, dès qu'on passe la surface, c'est un autre monde. Parce que la lumière est différente, la lumière est absorbée, donc il y a beaucoup moins de luminosité. Les couleurs, l'univers va être beaucoup plus monochrome qu'à la surface, parce que de nouveau, les couleurs sont absorbées avec la densité de l'eau. Également pour la vision, nous qui, en tant qu'humains, qui n'avons pas une vision adaptée au monde sous-marin, on doit mettre un masque, et le masque va faire des distorsions, que ce soit à nouveau de couleur ou de forme. Donc, évidemment, le cerveau doit... Au départ, le cerveau se rend vraiment compte que c'est un autre monde. Mais avec les années et l'expérience, pour moi, je switch tout de suite. Et c'est devenu un peu mon monde, quelque part.
Et tu te sens plus à l'aise en dessous ou au-dessus ?
Ouais, je vais pas dire que je me sens plus à l'aise sous l'eau ou sur l'eau. Hein. Faut un peu démythifier tout ça. On est des animaux terrestres à la base. On a appris à aller dans l'eau, mais au final, on reste des animaux terrestres qui allons sur ou dans l'eau. On compare souvent les apnéistes aux dauphins, aux mammifères marins. En fait, aux cétacés, on est beaucoup plus proche des phoques et des otaries que des dauphins et des baleines, évidemment. Ouais. Parce que l'otarie ou le phoque, la majeure partie de sa vie, c'est sur Terre. Il se repose sur Terre, il dort sur Terre, il se reproduit sur Terre. Et il va dans l'eau pour chasser ou pour s'amuser. Ce qui est exactement notre cas. Donc, on ne vit pas toute l'année dans l'eau et on ne vivra jamais toute l'année dans l'eau. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont quand même importantes, on est des humains qui allons dans l'eau.
Ok, tu dis que tu en fais ton métier du coup aujourd'hui, c'est quand la transition où ça devient ton métier à plein temps ?
Alors c'est arrivé très très vite, je m'ennuyais beaucoup beaucoup à l'école, et vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à passer beaucoup de temps à m'entraîner, en apnée. C'est au moment où le sport commençait tout doucement à se mettre en place. Donc avec des amis, on essayait de voir comment on pouvait progresser, s'entraîner, donc ça prenait beaucoup de temps. Parallèlement à ça, à l'époque, j'ai également passé tous mes brevets de plongée en scaphandre, hein, traditionnel. Ce qui fait qu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à travailler comme moniteur de plongée, comme moniteur d'apnée. Et donc très vite, j'ai arrêté tout ce qui était études et tout ça, et je suis parti là-dedans. Mais la grosse transition, ça s'est fait quand j'avais 19-20 ans, où je me suis dit que je commençais à avoir des performances assez importantes en apnée. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de passer là-dedans comme sportif professionnel. Et c'est parti comme ça. Et en 94, j'ai arrêté tout ce qui était mes boulots et tout ça, et full time pour m'entraîner. Et en 95, j'ai commencé à pouvoir en vivre en tant qu'apnéiste professionnel.
Ça fait quand même 25 ans déjà.
Ça va bientôt faire 30.
Ouais, c'est incroyable. Et alors, quand tu dis que tu en fais ton métier, ça consiste en quoi du coup ? Une semaine type, par exemple, qu'est-ce que tu fais le jeudi, tu vois ?
Voilà, alors, j'en ai fait mon métier donc, depuis plus de 25 ans. Au départ, j'ai fait 10 ans comme 9 ou 10 ans comme athlète professionnel. Donc sportif de haut niveau professionnel comme tous les autres sports, sauf que c'est de l'apnée. Donc là, ça veut dire on passe notre temps à s'entraîner pour un objectif. Donc en apnée, généralement, c'était soit un record ou un championnat du monde qui se passait généralement fin d'été, en septembre, octobre. Et donc toute l'année, pendant 9 ou 10 mois, on va s'entraîner pour ce record ou cette compétition, comme tout autre sportif de haut niveau. Hein. Donc ça, on fait, moi je faisais du vélo, de la course à pied, de la salle, de la natation, puis du spécifique dans l'eau, en été, les plongées profondes et tout ça. Avec à côté de ça, évidemment, comme c'était un tout petit sport, pas très organisé, il fallait s'occuper de tout le reste, donc de trouver les partenaires, de la com, tout ça. J'ai toujours tout fait tout seul. Et voilà.
Et tu courais pour la Belgique ?
Oui, alors oui, dans l'équipe nationale belge. Mais bon, c'était un sport quand même aussi pas mal individuel. Donc, j'étais très peu en Belgique parce que la Belgique, c'est pas l'endroit idéal pour pouvoir s'entraîner en apnée profonde. Donc, j'étais pendant des années, j'étais basé dans le sud de la France. J'ai vécu sur l'île de Porquerolles pendant 5 ans.
Okay.
Donc, j'avais ma base d'entraînement là-bas. Et puis voilà. Et donc, 10 ans de ce régime. Et au bout d'un moment, bon, voilà, on fait un peu le tour. Parce que c'est un sport quand même qui demande beaucoup de temps, beaucoup de. On doit vraiment se donner à fond dans tous les domaines. Pas seulement l'entraînement et tout ça, mais ça demande beaucoup. Vu que c'est un sport de nature, il faut que les conditions soient bonnes. Donc, quelquefois, ça. Pendant des semaines, on ne peut pas plonger. Donc, mentalement, et c'est usant sur la longueur. Et surtout que la motivation financière, elle n'est pas énorme. Hein, parce que l'apnée, voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais à la bonne époque. Le sport était quand même assez médiatique. Ça démarrait. Donc, on pouvait survivre du sponsoring. On se démerdait pour payer les factures. Ça allait. De nos jours, c'est devenu différent. Hein. Le sport est moins médiatique en compétition. Donc, il faut trouver d'autres moyens de payer les factures, on va dire. Mais voilà. Et donc, au bout de 10 ans, un petit peu l'impression d'avoir fait le tour. Et en fait, ce qui m'a permis de switcher vers une seconde carrière, 2 ans avant la fin de mes années de compétition, j'avais acheté un appareil photo sous-marin.
Okay.
Pour faire des photos, juste pour faire des souvenirs des compétitions et des moments qu'on passait avec les copains. Et très vite, en fait, ces photos ont plu au magazine parce qu'en fait, c'était la première fois qu'un apnéiste prenait des photos d'autres apnéistes. Donc, le regard sur la discipline était différent que les autres photographes en plongée traditionnelle. Et en fait, ça m'a permis de bifurquer vers une nouvelle carrière, sans l'avoir fait exprès. Parce que c'est vrai, quand on est sportif de haut niveau, le moment où on arrête et on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, c'est toujours assez stressant. J'ai pas mal de copains qui sont même dans d'autres disciplines et m'ont toujours dit que la transition est toujours un peu stressante, puisqu'on passe d'une vie très très organisée, découpée, à laquelle on va passer 6-7 heures par jour à s'entraîner, plus tout le reste. Et le jour où on arrête, tout s'arrête du jour au lendemain. Et on n'est pas préparé à ça. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette transition très, très naturellement, en douceur. Ça a été un grand plus, évidemment.
Et cette transition, du coup, tu deviens donc photographe professionnel sous-marin, je ne sais pas comment on
voilà, appelle ça. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire de la photo professionnellement. La photo sous-marine et essentiellement en apnée. Donc à l'époque, j'étais vraiment le seul à faire ça puisque plein de photographes sous-marins qui de temps en temps utilisaient l'apnée pour certaines choses bien précises. Et moi, je faisais tout en apnée. Et donc ça m'a perdu. En fait, le gros avantage de faire ça en apnée, c'est qu'on a une approche de l'animal complètement différente. Parce qu'en apnée, on fait pas de bruit, on est beaucoup plus silencieux, on se fond vraiment dans l'environnement. Et donc, ça permet d'avoir des rencontres animales qui sont pratiquement impossibles à avoir en plongée scaphandre traditionnelle. Et voilà, donc j'ai fait ma niche comme ça et j'ai pu faire ma... Et aussi, au niveau de l'esthétique, je travaille qu'en lumière naturelle. j'utilise pas de flash ou de lumière additionnelle. Ça permet d'avoir un regard très très différent sur l'image marine.
T'en as pas un peu marre du bleu d'ailleurs?
Non, ça va. Et d'ailleurs, le bleu, bah, il est toujours différent hein, en fonction de la lumière, de la luminosité, des nuages, de la couleur de l'eau, de l'endroit où tu te trouves, de la période de l'année. Donc, le bleu, il peut être vert, il peut être brun, il peut être très bleu, il peut être magenta. Donc, non, on peut pas s'en lasser, non, c'est pas possible.
Tu disais que tu commençais par photographier d'autres apnéistes. À partir de quand tu ajoutes dans ton catalogue peut-être d'autres animaux, puisque les humains c'est gentil, mais ouais. À partir de quand tu fais le switch du coup?
Alors en fait, c'est marrant, tu me poses la question, parce que pour moi l'apnée ça a toujours été un moyen de découvrir le monde sous-marin. Quand j'étais petit, moi ce qui m'intéressait, c'était pas nécessairement de tenir le plus longtemps possible ou de descendre le plus profond, mais c'était d'aller voir les animaux. Quand j'étais petit, ben, j'ai commencé un peu aussi par la chasse sous-marine, donc on essayait d'attraper des poissons. Puis après, plus tard, ben, on essayait de voir des plus gros poissons, on essayait de trouver des raies, des requins, de découvrir le monde sous-marin. Donc c'est toujours ce qui m'a animé. Et là, les 9 ou 10 années de compétition, ça a été un peu une parenthèse dans cette recherche et exploration du monde sous-marin. Mais derrière, dans la tête, il y avait toujours cet aspect découverte qui était très important. Et en fait, ma génération d'apnéistes, on a tous un petit peu ça. On venait tous de la plongée récréationnelle ou de la chasse sous-marine et de tout ça. Donc en fait, la motivation d'aller profond et de tenir longtemps était un petit peu secondaire. Ça nous a permis évidemment de grandir en tant qu'humains, de passer à l'âge adulte et de faire nos expériences d'adultes. Mais on avait toujours quand même cette quête de l'exploration et de rencontre des animaux qui était très importante. Donc en fait, quand je suis arrivé à la photo, j'ai un peu reconnecté avec ça, d'une manière évidemment encore plus forte, puisque quand on est photographe, ben, on doit rencontrer les animaux le plus proche possible pour avoir une bonne image. Donc en fait, la compétition, c'était juste une parenthèse. On va dire, dans cette démarche d'exploration sous-marine. Et avec la photo, ben, on reconnaît complètement à ça, puisque l'apnée n'est plus un but, mais un outil parmi d'autres, comme l'appareil photo, comme tout le reste. C'est juste, l'apnée redevient un outil, un simple outil et plus un but.
Ça m'intéressera de parler un peu de matériel aussi tout à l'heure. Petite parenthèse rapide, parce que tu as quand même passé 10 ans en compétition. Tu parlais effectivement de temps passé sous l'eau. Alors, ton record, par exemple, si on peut en parler, c'est quoi ton record de temps passé sous l'eau?
Alors, les records, ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, j'ai arrêté la compétition en 2003 ou 2004. Quand j'ai arrêté, à l'époque, je descendais à la palme, donc poids constant, donc à la force des palmes descente et remontée à la force des palmes, c'était 80 mètres. Wow. Et en piscine, sans bouger, donc en ce qu'on appelle l'apnée statique, donc on fait une apnée longue dans une piscine sans bouger, j'étais aux alentours des 7 minutes. Ça, c'est pour donner une idée. Il faut savoir que maintenant, le record du monde en apnée statique, on est à 11 minutes 35.
Ah oui.
Donc sans bouger, et en profondeur, en poids constant, on doit être dans les 130 mètres. Donc okay. Les performances ont énormément progressé ces 15-20 dernières années. Mais donc ça c'était pour situer plus ou moins où on en était à l'époque.
Et toi, t'avais passé les 100 mètres de souvenir, t'avais réussi?
Oui, alors j'ai les 100 mètres, je les ai fait mais dans une autre discipline.
Oui.
Donc... En fait, moi, ma discipline de prédilection, c'était le poids constant, donc descente à la force des palmes, remontée à la force des palmes. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le poids variable ou le no limit, où on emploie un poids qui va nous descendre jusqu'à la profondeur et on va remonter avec l'assistance d'un ballon ou en se tirant sur la corde. Et là, j'étais à 100, 105, ou 105 mètres, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une discipline complètement...
différente. Ouais. Mais c'est impressionnant, 80 mètres. Est-ce que tu vois vraiment en bas? Je ne m'en rends pas compte.
Oui, bien sûr. En Méditerranée ou dans les eaux claires, il y a de la lumière jusqu'à pratiquement 200 mètres. Donc à 80 mètres, oui, on voit, il fait encore assez clair.
Et comment tu te resitues du coup? Tu as une corde, tu suis, c'est ça le...
On a un câble guide, exactement. Donc on suit le câble. On ne peut pas l'employer pour se déaler dessus. On va le suivre visuellement et en plus on est clipsé avec ce qu'on appelle une longe. C'est une petite corde de sécurité qui nous relie à la corde principale. Comme ça, en cas de problème, l'équipe de surface remonte la corde avec le poids au fond et donc pourra remonter la piste. Bon.
Ok, ouais, très bien. Et tu as mis combien de temps à t'entraîner pour descendre jusqu'à 80 mètres? Tu le fais par combien de paliers? Je ne me rends pas compte.
Alors, ouais, c'est intéressant comme question parce que notre génération, pour nous, ça a mis des années. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de méthodologie d'entraînement. On ne savait pas comment s'entraîner. Il n'y avait pas de formation en apnée. Donc, on a créé les premiers cours. Moi, j'ai monté ma première école d'apnée quand j'avais 18 ou 19 ans en 1990 à Bruxelles.
Ok.
On tâtonnait complètement. En plus, il n'y avait pas l'Internet, donc il n'y avait pas les forums. On échangeait des infos par téléphone ou par fax. Donc, et justement, à l'époque, les compétitions, ça nous permettait de se rencontrer et d'échanger. Donc, c'est un sport où il y a toujours eu beaucoup d'émulation, une bonne ambiance entre les compétiteurs. Souvent, pendant l'année, on s'entraînait avec nos compétiteurs. Moi, pendant des années, je me suis entraîné avec un autre apnéiste, Pierre Frolla. On s'entraînait ensemble toute l'année, on s'entraidait et tout ça, mais le jour du championnat du monde, on était compétiteurs et
chacun de son côté.
Voilà, si on, ouais. Voilà. Donc c'était un sport assez intéressant d'être au début de tout codifier. On a créé la fédération qui a ratifié les records, qui a organisé les compétitions. Donc on a vraiment accompagné la croissance de ce sport, donc c'était également très intéressant, c'était une période très très intéressante au niveau humain.
Et du coup, les paliers, vous les faites quoi? C'est au début, tu essayes 20 mètres, après tu essayes 50 ou c'est plus
petit que ça? Non, c'est beaucoup plus, c'est mètre par mètre.
Okay.
On va y aller mètre par mètre. Encore maintenant, hein, d'ailleurs, les apnéistes profonds, voilà, on va répéter les plongées, on va faire 50, on va faire 51, 52 et ainsi de suite. Donc, ce qui permet également de jamais faire des grands sauts dans l'inconnu. Par exemple, en compétition, généralement, les profondeurs qu'on va annoncer, on doit annoncer sa profondeur à l'avance, donc la veille.
Okay.
Et donc, personne ne connaît les annonces. Donc, c'est un sport assez stratégique parce qu'on doit annoncer une profondeur. On ne sait pas ce que les concurrents vont faire. Donc, il faut connaître ses concurrents. Il y a un peu de bluff. Mais si on fait une annonce trop forte... ça peut être problématique. Si on est trop conservatif, c'est problématique également. Donc, il faut vraiment se connaître exactement. Et donc, généralement, on a déjà fait la profondeur qu'on va faire pendant la compétition. C'est une profondeur qui est déjà acquise, maîtrisée, ce qui nous permet d'être certain de la réaliser le jour de la compétition. Parce que si on n'atteint pas la profondeur, on a des points de pénalité et on ne peut pas la dépasser. Donc, c'est un sport également assez stratégique.
Ah oui. Et tu as une marge de combien? Tu vois, si tu annonces 55 mètres, tu peux descendre jusqu'à... Enfin, tu peux jouer à combien?
Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Donc, le disque sera à 55 mètres. Là, tu as une plaquette à prendre à 55 mètres. Et si tu n'atteins pas les 55 mètres, tu as un point de pénalité par mètre que tu n'as pas atteint. Voilà. Et tu ne peux pas dépasser. Donc, c'était très intéressant au niveau stratégique.
Et alors, en termes de sécurité, là, pour le coup, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a des gens en bas avec des scaphandres qui t'attendent ou qui te regardent? Ou est-ce que tu es
tout
seul?
Alors, au début, quand on a commencé, pendant les compétitions et les records, on avait des plongeurs en scaphandre au fond. Et comme évidemment, on descendait beaucoup plus profond que le scaphandre normal, on avait des plongeurs au trimix avec des mélanges gazeux et qui devaient se faire 3-4 heures de palier après. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était assez inutile, parce qu'un plongeur à cette profondeur-là, il ne peut pas faire grand-chose. Et surtout, les incidents qui arrivaient, c'était plutôt à la remontée dans les derniers mètres. Là, au moment où, quand tu remontes, à cause des jeux de pression, le taux d'oxygène chute fortement. Et donc, les problèmes, les pertes de connaissances, tout ça arrivait dans les 10-15 derniers mètres, voire à la surface. Donc très vite, on a switché vers un système de contrepoids, où en fait, donc, comme je te disais, l'apnéiste était relié à la corde principale par une petite longe. Et grâce à ce système de contrepoids et le timing de l'apnéiste, s'il y avait un problème, on remontait le tout. On remontait le cap principal avec l'apnéiste. Donc ça permettait de ne plus avoir de plongeurs en profondeur. Parce qu'au final, les plongeurs en scaphandre prenaient pratiquement plus de risques que les apnéistes, puisqu'ils se retrouvaient très profonds, avoir faire beaucoup de paliers avec des mélanges gazeux pas super à respirer. Et donc, au final, voilà, on a trouvé des moyens de sécurité, des mesures de sécurité beaucoup plus efficaces, sans avoir besoin de plongeurs au fond. Et on avait juste ce qu'on appelle un apnéiste de sécurité, donc qui va accompagner l'apnéiste dans les 20-30 derniers mètres de sa remontée à côté de lui. Et si à ce moment-là, l'apnéiste faisait une perte de connaissance ou il y avait un problème, il pouvait le remonter très facilement jusqu'à la surface.
Et alors, ça veut dire aussi que du coup, en termes de couverture, je pense par exemple en termes de film, de suivi, c'est beaucoup plus difficile. Comment vous avez... C'est quoi le matériel qui vous suit par exemple si vous voulez
accompagner? Ah ouais, bah alors là, à notre époque, il n'y avait pas de suivi évidemment. On avait une caméra au fond qui filmait l'arrivée de l'apnéiste. Pour être certain qu'il ait fait la profondeur, qu'il n'ait pas triché. Il y a également, au fond, on a le droit de tenir une fois la corde pour pouvoir se relancer, mais si on tire deux fois sur la corde, on est disqualifié, puisque c'était juste à la force d'épingle. Mais au départ, cette caméra, elle était au fond, dans un caisson, et il fallait attendre la fin de la compétition pour remonter les images et vérifier tout ça. Après, il y a eu des retours vidéo directs, ça c'était la prochaine étape. Et là, depuis 6-7 ans, il y a une boîte qui a mis au point un système qui suit en fait l'apnéiste pendant toute la descente et la remontée. Donc splendide. Ça permet de faire des broadcasts un peu live. Donc maintenant, les championnats du monde, généralement, voilà, on arrive à suivre la plongée des compétiteurs en direct. Ça. Mais à notre époque, c'était pas du tout.
Et tu disais que tu t'entraînais avec des concurrents. Les concurrents, ce sont d'autres confrères belges ou c'était des concurrents étrangers aussi?
Non, c'était des concurrents étrangers principalement parce qu'on avait une équipe belge qui était assez forte. On a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, on avait plusieurs recordmen du monde en Belgique. Étonnamment, en fait, on s'est rendu compte que les pays comme la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, on avait des très très bons apnéistes.
Okay.
Parce qu'en fait, on était tellement motivés pendant l'année, puisqu'on s'entraînait qu'en piscine, dans des lacs horribles et tout ça. Donc, on était très très motivés et très entraînés. Ce qui fait qu'en saison, quand on arrivait en mer, on avait des grosses perfs parce qu'on s'était entraînés comme des chiens pendant toute l'année dans des très mauvaises conditions. Et ça nous permettait d'être plutôt forts quand on arrivait à la bonne saison en mer, en Méditerranée, par exemple.
Ah oui. Ok. Les records du monde, on peut en parler rapidement ou pas? C'est quoi les records que vous mettez en place? Comment tu définis un record du coup à cette époque-là? C'est de plus en plus profond?
Oui, c'est ça. Enfin, l'apnée, c'est comme l'athlétisme. Hein. Il y a plein de disciplines.
Ouais.
Donc, il y a l'apnée statique où on reste dans une piscine sans bouger. Ouais. Il y a l'apnée dynamique où on va faire la plus longue distance possible en piscine.
Ouais.
En profondeur, il y avait 4 ou 5 disciplines. Donc, c'est comme l'apnée, comme l'athlétisme. Il y a plein de disciplines. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Et comme dans l'athlétisme, bah, il y a généralement une discipline que tout le monde suit. À notre époque, c'était plutôt le no limit, donc le poids hein, qui nous descend au fond et on remonte avec un ballon parce que c'est la profondeur absolue. Donc ça, généralement, était plus médiatique. Alors qu'en compétition, la discipline, c'était le poids constant, donc descente à palme, remontée à la palme. C'est beaucoup plus facile à organiser en termes de sécurité.
Comment tu te sens quand tu bats un record? C'est quoi le ressenti derrière?
Alors bah oui, la première fois qu'on a un record du monde, c'est super parce que voilà, on a été quelque part, enfin on a fait un truc que personne n'a jamais fait, donc la première fois c'est super. En plus on est généralement assez jeune, donc ouais, super. Mais après je me suis rendu compte, j'ai eu 4 records du monde, j'ai gagné une fois les championnats du monde. Mais on se rend compte que après on répète et donc ouais, ça a quand même moins de saveur et surtout que ça devient une recette, comme tout sport de haut niveau. À un moment, on connaît la méthode. Bon, on va changer évidemment des petites choses parce que chaque année, on veut progresser. Et puis même par rapport à la concurrence, on va changer des petites choses, mais on sait que la recette, la méthodologie est la même. Et c'est ça aussi qui, au bout d'un moment, fait la lassitude. C'est que, voilà, on sait par quoi on va passer pendant une année d'entraînement, les hauts, les bas, la difficulté et tout ça. Et on sait où ça arrive. Et comme chez nous, il n'y avait pas un gros incitant financier, au bout d'un moment, on se lasse de devoir remettre le métier sur l'ouvrage et savoir que c'est exactement la même chose qu'on va faire et refaire. Donc c'est ça aussi qui, à un moment, fait switcher vers la recherche d'autres choses, forcément.
C'est impressionnant. Et t'as jamais eu des frayeurs quand t'étais en bas, des trucs où tu t'es dit « là, c'est la merde, comment je remonte ?»
Non, parce qu'en fait, on est tellement focus sur le truc, on a tellement répété tout à l'entraînement que même quand il y a un petit problème, un souci, on a appris à tout régler à l'entraînement. On travaille beaucoup aussi par visualisation. Donc, la plongée, on l'a fait 100 fois avant de la faire. Et en fait, la plongée elle-même, on l'a déjà faite. Donc, s'il y a un petit couac à un moment, on sait tout de suite comment se remettre dans la bonne disponibilité mentale et résoudre le problème. Donc, en fait, à la limite, rétroactivement, on peut peut-être avoir eu peur, se dire, oula, ouais, là, c'est peut-être un peu merdé. Mais pendant la perf elle-même, pas du tout. Ce n'est pas des émotions qui nous viennent à l'esprit.
C'est que des
réflexes. Au contraire, voilà, c'est devenu du réflexe. Et on essaie justement de mettre de côté tout ce côté émotionnel dans la perf. Par contre, en apnée, maintenant, par exemple, quand je fais de la photo, que je travaille avec les animaux, là, c'est complètement différent. On est beaucoup plus ouvert au monde extérieur. On n'est pas complètement dans notre bulle. Donc, on garde des marges de sécurité beaucoup plus importantes. Les apnées sont moins longues. Et on est, au contraire, très complètement ouvert au monde extérieur. Donc, on perçoit tout. On écoute les sons. Tout ce qu'on peut capter, on va essayer de mettre à notre avantage. Alors qu'en apnée de compétition, en apnée profonde, on élimine complètement tout ça. D'ailleurs, on a les yeux fermés la plupart de la descente. Qu'il fasse noir ou pas, ça ne change rien. Le froid, on ne le ressent pas. On essaie vraiment de se mettre dans une bulle complète. Et tout a été répété, revu, refait à l'entraînement.
C'est impressionnant. Et pour resituer, tu disais tu fais 7 minutes et quelques en statique. Une descente à 80 mètres, ça met combien de temps ?
Une descente à 80 mètres, donc aller-retour, on est à peu près à 2 minutes 20.
Ah ouais, c'est très rapide en fait. Okay.
C'est rapide, mais l'effort est important évidemment.
Ouais, bien sûr.
Parce que musculairement, la remontée est très très, très, très dure.
Ouais. Tu bouges les bras quand tu remontes ou c'est que les palmes ?
Non, que les palmes. Il faut savoir, quand on descend, en fait, au bout de 20-25 mètres, la combinaison s'est écrasée, les poumons sont écrasés, donc on est très négatif. Donc à partir de 20-25 mètres, on ne palme plus, on coule. Donc ça nous aide à descendre sans dépenser d'énergie, mais par contre, à la remontée, il va falloir palmer jusqu'à la surface. Donc ouais. En fait, quand on est arrivé en bas, le plus dur reste à faire.
Ah oui. Ok. Bon, en 10 ans du coup de compétition, tu trouves que tu arrives sur un stade où tu t'en lasses un peu, tu te reconvertis du coup pour reprendre ce qu'on se disait dans la photo. Tu vas très vite transitionner vers de la photo animale également, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est quoi ton job quand tu es photographe ? Est-ce que tu as des road trips, des mer trips dans l'année, plusieurs fois ? Est-ce que tu es objectivé sur des photos, résultats que tu vends ? Comment ça marche ?
Alors voilà, de nouveau en photo. Moi, quand j'ai démarré, l'activité fonctionnait encore bien. J'ai démarré au tout début du numérique, donc début des années 2000, 2002, par là. Donc la photo, ça marchait encore bien. On en vivait plutôt bien. Et là, maintenant, évidemment, le marché s'est complètement cassé la gueule, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus d'images sur le marché. Pour donner une idée, j'ai un vieux copain qui est photographe sous-marin, qui a maintenant passé 70 ans, qui était très actif dans les années 80. Et il me disait à l'époque, dans les années 80, il y avait 5 bonnes photos de requins-tigres, par exemple. Okay ? Parce que voilà, on ne savait pas comment les photographier, on ne savait pas comment les trouver, on tâtonnait. Donc il y avait 5 bonnes photos. Lui, il en avait 2 sur les 5. Il me disait, rien qu'avec ces 2 photos, je vivais. Voilà.
Ah oui.
Il faut savoir maintenant qu'aujourd'hui, des bonnes photos, voire photos exceptionnelles de requins-tigres, il y en a peut-être 300 000.
Ouais, hein.
Réellement, 300 000. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont dans l'eau, tellement de gens qui font de l'image, tellement de gens qui font des bonnes images, que bah voilà, le marché, évidemment, s'est complètement explosé. Donc, il faut toujours trouver, se réinventer, trouver une esthétique bien particulière, faire ce que les autres ne font pas, avoir une niche. Et donc, voilà. Et moi, ma niche, ça a évidemment été donc les gros animaux en lumière naturelle, en très grand angle, pour vraiment essayer de les situer dans leur environnement, et généralement avec un humain à côté, un apnéiste. Et donc, voilà, ça, ça a été ma niche. Dès le début, voilà, c'est un truc qui m'a plu. Pourquoi ça m'a plu ? Parce que c'est des photos que je ne voyais pas. Je voyais peu de gens faire ça, et je trouvais ça intéressant de mettre l'animal en perspective avec l'humain, et surtout un apnéiste, parce qu'un apnéiste est quand même assez élégant dans l'eau. Donc un apnéiste à côté d'un animal, c'est beau. C'est un plongeur bouteille avec des bulles, des tuyaux partout, ça ressemble pas à grand chose. Et donc voilà, je me suis mis dans cette niche, et voilà, les photos ont plu, et donc c'est comme ça que j'ai... Alors pour répondre à ta question, ben voilà, tu vends à des magazines, tu fais des sujets pour des magazines, tu vends à des maisons d'édition pour des bouquins, des illustrations. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais également, quand on est photographe sous-marin, on va chercher des sujets. Et très vite, je me suis dirigé vers les biologistes marins, parce qu'eux travaillent avec les animaux.
Okay.
Et donc forcément, ça fait des belles histoires, puisqu'on va pouvoir raconter l'histoire voilà, d'un biologiste qui travaille sur des recherches sur un animal bien spécifique. Ça permet de raconter une histoire, parce qu'il faut raconter des histoires avec des photos, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là, en fait, ça m'a permis de faire une deuxième bifurcation de carrière, c'est que j'ai commencé à travailler avec les scientifiques sur le terrain, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un apnée, ça pouvait être utile. Alors d'abord pour faire de la photo-identification et des choses comme ça,
ouais.
Mais également pour pouvoir approcher les animaux qu'eux n'arrivaient pas à approcher, par exemple pour poser des balises sur des requins et des choses comme ça. Donc, ça m'a permis d'utiliser l'apnée comme un outil, une fois de plus, et dans un domaine différent. Donc, c'est pour ça que je disais au départ que je suis un apnéiste, mais que mon activité tourne autour de l'apnée, et que l'apnée est un outil, mais pour différentes choses. Donc, voilà. C'est ça qui est toujours intéressant, parce que j'ai toujours réussi à trouver un débouché, une nouvelle chose, grâce à l'apnée. Donc, l'apnée, c'est un peu un fil conducteur qui va m'amener à différentes choses.
J'ai un petit doute, mais quand tu dis que tu prends en photo un animal avec un apnéiste à côté, tu n'es pas en train de faire un selfie. On est d'accord que tu es...
Ah non, non. Le selfie, c'est vraiment pas mon truc du tout. Donc, non. Voilà. C'est essayer de capturer une interaction d'un humain avec un animal.
Et tu parles avec qui, du coup ? C'est qui l'autre apnéiste, en général, que tu photographies ?
Il y a plusieurs apnéistes. Hein. Voilà, j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille et voilà, parce qu'il faut une confiance hein, dans l'eau, il faut des gens avec qui tu as confiance, parce que toi, tu t'occupes de leur sécurité, mais eux s'occupent de la tienne. Donc voilà, c'est des rapports assez forts. Il faut des gens avec qui tu as confiance et qui connaissent les animaux, qui connaissent aussi l'image, parce qu'ils vont pouvoir savoir se placer par rapport à la lumière et tout ça. Et puis voilà, avec qui on s'entend bien, parce que souvent, c'est des experts lointains dans des conditions de confort pas top. Sur des bateaux pourris, sur des îles où il n'y a rien. Donc voilà, il faut pouvoir s'entendre avec les gens avec qui tu travailles. Et que voilà, les conditions logistiques ne pèsent pas là-dessus, évidemment.
Et ces gens-là, c'est des anciens compétiteurs comme toi ou c'est des gens que tu rencontres au fur et à mesure ?
Ouais, alors il y a des anciens compétiteurs. Hein. Je parlais justement de Pierre Frolla, qui est un copain depuis 25 ans bientôt, qui a également cette démarche, hein, comme la mienne, qui est venue à l'apnée... par la chasse sous-marine. Son père est un grand chasseur sous-marin qui a amené ses fils avec lui, donc il a appris sur le tas comme ça. Et après, bah, il adore les animaux, donc on a fait pas mal de voyages comme ça. Après, il y a également d'autres apnéistes. J'ai un ami également photographe apnéiste qui était une prédisposition à la photo, qui était en fait ingénieur du son. Qui faisait beaucoup d'apnée pour le plaisir. Et un jour, il a pris un appareil, il s'est rendu compte qu'il était très bon photographe. Il s'appelle Alex Voyer. Et lui, en fait, il n'est pas venu à l'apnée par la compétition. Et c'était l'apnée vraiment loisir-plaisir. Et qu'il a transformé également en métier. Et donc, on travaille pas mal ensemble sur des expés également. Donc voilà, c'est surtout le fait d'avoir des valeurs communes par rapport à la nature, aux animaux et à notre méthodologie de travail qui va faire que ça colle bien et qu'on va pouvoir travailler ensemble.
C'est génial, c'est passionnant. L'expert, du coup, ressemble à quoi si tu nous fais, tu parles de conditions un peu difficiles, si tu nous fais un exemple type d'une expé ou la dernière que tu as faite, par exemple, elle ressemble à quoi?
Ah ben, ça dépend d'où on va. Ça dépend où on va aller. Alors, quelquefois, c'est juste les conditions météo qui vont être dures, enfin, les conditions du milieu. J'étais en Antarctique, j'étais au pôle Nord. Je travaille, une des dernières expés, là, c'était avant le confinement, c'était en Norvège pour les orques et les belugas. Donc là, on travaille dans des eaux qui sont à 2-3 degrés, il fait moins de 15 d'or sur des zodiacs. Donc, c'est des conditions difficiles. On était en Antarctique sur un petit voilier aussi, où on passe 6 semaines sur un petit voilier avec, on est 5 ou 6, 7 sur un petit bateau, la promiscuité, pas d'eau. Juste de l'eau pour cuisiner tout ça, mais très peu d'eau pour le reste. Sur des îles où on va camper, on sera dans des tentes pendant plusieurs semaines. Voilà, mais c'est comme tout photographe de nature, à un moment, il faut aller dans l'élément, dans la nature. Et ça, sur le moment, on fait complètement abstraction. C'est pas difficile. C'est à la limite, avant de partir, on se dit, on sait où on va, on sait que nouveau, ça va être dur et tout ça. À partir du moment où on est dedans, on oublie complètement. Ça fait partie de l'activité. Mais c'est vrai qu'avant et après, c'est comme un entraînement. Hein. C'est comme quand on va à l'entraînement. Le plus dur, c'est d'y aller. Je me rappelle, dans mes années de compétition, ça m'arrivait de pouvoir rester 10 minutes, un quart d'heure avec la main sur la poignée de la porte. Avant de partir à la piscine en plein hiver, parce que il fait moins 5 d'or, il neige, il est 7 heures du mat, t'es crevé, tu t'as vraiment pas envie d'aller t'entraîner, mais tu vas le faire parce que tu sais que c'est ça qui va faire la différence pour ta perf en fin d'année, et tu sais que ce jour-là, ton compétiteur, il est exactement comme toi, il a pas envie d'y aller, et ce qui va faire la différence, c'est peut-être que ce jour-là, toi, tu vas y aller, et que lui, il va rester dans l'appart bien au chaud. Donc, en photo, en expé, pour des tournages, c'est comme ça. À un moment, il faut passer du temps dans l'eau, faut y aller, même si il y a des jours où on n'a pas envie parce qu'il fait froid, on est fatigué, on est au bout. Mais c'est ce jour-là, peut-être qu'on va faire l'image qui va changer l'expé.
C'est excellent. Tu pourrais citer peut-être, quand tu fais des compétitions, tu m'as dit 2-3 minutes ou 2,30 minutes pour descendre à 80 mètres. La photo que tu fais avec les animaux, elle est à quelle profondeur, et du coup tu fais une plongée de combien de temps pour aller prendre la photo?
Alors ça dépend, mais moi les animaux avec lesquels je travaille, les gros animaux, les cétacés, les gros requins et tout ça, généralement je travaille entre 0 et 30 mètres, mais je pense que 80% de mes images ont été faites entre 0 et 10-12 mètres.
Ok.
Donc on descend pas profond, c'est pas des apnées très longues, mais ça demande une bonne connaissance de l'animal. En fait, si on connaît bien l'animal, on sait comment il fonctionne, comment il va interagir, on peut vraiment raccourcir les apnées. Je sais que tel requin, il a tendance à faire tel circuit, il va se présenter de telle façon, de tel angle. Donc, je sais que si je me mets à tel endroit, ça va attirer sa curiosité, et donc j'aurai mon cliché. Donc, en fait, on compense le temps par la connaissance. Donc, ça permet, quand on devient vieux et paresseux, d'arriver à faire des bonnes images grâce à la connaissance de l'animal et du milieu. On s'adapte. C'est un peu comme le prédateur, le vieux lion, qui sait exactement où se poster par rapport au troupeau de gazelles qui va passer, et minimiser l'effort et être pratiquement certain d'avoir sa proie, et dans notre cas, de faire l'image.
Est-ce que vous êtes resté bloqué du coup dans les expéditions que vous avez faites, par exemple dans les pôles? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes bloqué dans la glace et du coup, descendre dans l'eau, c'est un risque aussi de ne pas pouvoir remonter?
Non, ça, tout ça, ça va, mais souvent on est bloqué, on ne peut pas aller à l'eau parce que les conditions météo ne sont pas bonnes, on va rester bloqué dans le bateau, dans la tente ou à l'hôtel. Et ça, c'est le pire, parce que c'est l'attente. C'est l'attente où les heures, les jours tournent, on a un objectif et on n'arrive pas à l'atteindre. Donc ça, c'est le plus dur, c'est de réussir à justement manager cette attente et justement de rester concentré. Donc au moment où la fenêtre météo va s'ouvrir, ben, boum, de faire le job. Et voilà, et ça, c'est un truc qu'on peut transposer dans la vie de tous les jours. C'est que bah, quelquefois les conditions elles sont un peu contre nous, mais c'est pas grave parce qu'à un moment il y aura la fenêtre, l'éclaircie, et il faut être prêt, il faut être toujours prêt, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir, avec l'expérience qu'on a, avec les connaissances qu'on a, bah, faire le job. Donc bah, ça, je crois que c'est un peu tout le monde, hein. Tout le monde dans son activité va faire face à ce genre de situation.
Tu saurais nous dire la plus belle et la pire des apnées que tu as fait pour aller photographier les animaux?
C'est difficile parce qu'il y a tellement de bons moments, hein, évidemment. La première fois qu'on se retrouve avec un grand requin blanc dans l'eau ou avec une baleine, un cachalot, c'est toujours des moments très très forts, évidemment. Il y a quelques années, ici aux Açores, je suis tombé sur une naissance de cachalot. Donc, on était dans un groupe de 20 ou 30 cachalots et une mère qui venait de mettre bas. Ça, c'est des moments très forts, évidemment, parce que des animaux énormes, des super prédateurs, mais qui vous acceptent un peu dans leur clan au moment où ça se passe. Donc ça, oui, ce sont des moments, évidemment, inoubliables. Voilà, mais il y en a tellement. Hein, c'est une activité où tout est tellement renouvelé, tout change tellement. À chaque fois qu'on va dans l'eau, les conditions sont différentes, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc voilà, c'est infini. Et j'ai du mal à m'arrêter à un bon moment ou un mauvais moment. C'est vraiment une expérience globale.
Mais ça a l'air vraiment impressionnant, parce que c'est vrai que j'ai la sensation que quand tu es sous l'eau, comme tout est au ralenti parce que c'est de l'eau, donc ça, on ne bouge pas aussi vite que dans l'air, le son également est ralenti, donc c'est un peu un son sourd.
Non, en fait, le son va beaucoup plus vite. Le son voyage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc on est à peu près à 1400 mètres seconde. Et ce qui fait qu'on entend très bien les sons dans l'eau. Par contre, on ne sait pas d'où ils viennent, parce que notre cerveau n'est pas fait pour réussir à calculer la différence. Donc, dans l'air, nos oreilles arrivent à calculer la différence, dans quelle oreille le son va arriver. Ouais. Donc, on va pouvoir en détecter la provenance.
Okay.
Mais dans l'eau, le cerveau n'est pas assez rapide pour faire la différence. Donc, c'est très difficile, quand on entend un son, de savoir d'où il vient.
Ah oui, oui.
Voilà, on n'est pas adapté à ça. Les mammifères marins sont tout à fait capables de le faire, mais nous, on n'est pas adapté à ça.
Et même avec
on entend très bien les sons.
Même avec le temps, là, tu penses que même avec 25 ans de métier, c'est toujours aussi perturbant?
Ouais, on arrive peut-être un peu plus facilement parce qu'on va tourner la tête, on va compenser justement notre inaptitude en bougeant la tête plusieurs fois pour essayer de déterminer la source du son. Mais voilà, il faudra peut-être quelques dizaines de générations ou centaines de générations d'apnéistes pour pouvoir vraiment faire la différence.
T'as déjà été frustré dans ta carrière jusqu'ici? Il y a eu des éléments où t'es un peu déçu, un peu...
Bien sûr, c'est comme dans la vie, hein. Il y a toujours des moments qui sont plus difficiles, on voudra absolument réussir ça et ça ne marche pas. Mais avec le temps et l'expérience, on se rend compte qu'au final, tout finira par arriver et se mettre en place. Si on en a la patience, si on met les moyens nécessaires pour le faire. Et si ça ne se fait pas, bah, au final, ce n'est pas grave. Et c'est que ce n'était pas si important que ça. Donc justement, je pense que ce genre d'activité permet de relativiser beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, dans la vie de terrien. Et de se dire que bah, voilà, si les choses ne se mettent pas en place, c'est que ça ne se met pas en place. Si on a fait tout pour que ça se mette en place et que ça ne se met pas en place, c'est que ça ne devait pas se mettre en place. Et au contraire, ben voilà, si on a tout bien fait, finalement, les choses se passent. Et ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses et de se rendre compte que ben, rien n'est acquis non plus. Dans notre cas, voilà, c'est pas parce qu'on est capable de descendre à 30 mètres que le lendemain, on va être capable de le faire. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans la performance, dans le confort en apnée. Donc, ça permet de relativiser beaucoup de choses. C'est une activité qui nous permet de relativiser énormément de choses dans la vie de tous les jours.
C'est quoi la prochaine expédition, du coup, là? Je sais que le confinement n'a pas été facile à vivre pour tout le monde, mais c'est quoi, du coup, dans ton programme, là?
Alors, pour le moment, on ne sait pas trop parce que voilà, je travaillais sur des projets de films, de documentaires et tout ça. Et tout ça était complètement en stand-by. Donc, pour le moment, je me concentre sur les Açores. Puis ça fait d'ailleurs quelques années que j'ai un peu ralenti les voyages. Donc, j'essaie de me concentrer, de rester plus longtemps aux endroits où je vais. Je préfère travailler de cette façon-là. Déjà parce qu'on va un peu plus profondément dans les choses. Et puis aussi, rien qu'au niveau de l'impact environnemental, des voyages et tout ça, ça fait pas mal d'années. J'ai une vie assez minimaliste. Et donc voilà, donc j'essaie vraiment de recentrer ça. Et cette année, je sais que jusqu'en septembre-octobre, ça sera les Açores de toute façon. C'est la bonne saison. Et après, on verra si les documentaires reprennent, si les tournages reprennent, des experts reprennent. Mais à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont changer avec cette crise qu'on vient de traverser, qu'avoir l'état des compagnies aériennes et tout ça. Je pense que les voyages vont être différents et peut-être justement on va un peu plus apprécier les voyages parce que je pense que c'était vraiment devenu de la consommation. Hein. Je veux dire, on prenait un vol pour aller à l'autre bout du monde comme on prend un bus pour aller de l'autre côté de la ville. Et je pense que voilà, on va aller justement vers des voyages peut-être plus longs, voyager moins. Je me rappelle hein, quand j'étais gamin, on voyageait moins, mais les voyages qu'on faisait étaient plus longs. Je me rappelle dans les années 70-80, je partais avec mes parents, on partait. Si on prenait un avion, on partait au moins 15 jours, 3 semaines. On prenait pas un avion pour partir un week-end.
Un week-end, ouais.
Et ça, c'est invivable, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on arrive à l'état de la planète dans lequel il est. C'est que ces 30 dernières années, on a vraiment fait les cons. Je pense que là, c'est peut-être le moment de réduire la voilure et de revenir à des déplacements un peu plus rationnels et une manière de consommer un peu plus rationnelle.
Justement, petite parenthèse sur la partie consommation, je suppose que tu fais partie des fervents défenseurs de la propreté des océans. Tu mènes des actions en particulier qu'on pourrait connaître?
Oui, bien sûr, mais il y a à peu près 60% de mon temps de travail et un travail bénévole pour des ONG, des organisations de recherche, de protection de l'environnement. C'est très important. On se doit de le faire hein, en tant qu'on est un peu ambassadeur des océans. Hein. Domaine. Voilà, donc, mais ça permet de voir également qu'on perd les écosystèmes à une vitesse vertigineuse, malgré ce qu'on dit, parce qu'on dit, voilà, il y a plein de réserves qui sont créées, on crée des sanctuaires marins et tout ça. On n'a déjà pas les moyens de les surveiller pratiquement. Et également, la pression humaine sur l'écosystème est telle qu'on perd les écosystèmes à une vitesse très très rapide. On perd les animaux, on perd les grands prédateurs. Donc, je suis vraiment pas optimiste de ce côté-là.
Mais pas optimiste.
Je pense que les 5 prochaines années vont être décisives. Que ce soit au niveau climatique, de toute façon, on a déjà perdu la bagarre. On parle des 1,5 à 2 degrés en 2050 pour les accords de la COP. Les 1,5 degrés, on y sera dans 5 ans. Le monde qu'on a connu va changer très très rapidement dans les 5 à 10 prochaines années, rien qu'au niveau des rendements agricoles dans nos pays, hein, faudra pas aller si loin que ça. Donc il y a beaucoup de tensions qui vont venir de là. Donc il faut absolument investir dans la résilience, que ce soit au niveau sociétal, même personnel. Je suis vraiment pas optimiste. En ayant passé les 15-20 dernières années à beaucoup travailler avec des scientifiques de terrain, dans plein de disciplines différentes, le constat, il est plus qu'alarmant. Ce qu'on voit dans les médias, le rapport du GIEC, il faut savoir que le rapport du GIEC, c'est extrêmement consensuel. Ils ont pris les valeurs les plus basses pour que, justement, ils arrivent à faire passer quand même un message au grand public. Mais toutes ces valeurs sont explosées de loin si on va vraiment dans le fond des études. Donc voilà, il faut s'attendre à voir le monde changer dans les 5 prochaines années. Et ce qu'on vient de vivre maintenant, un tout petit virus qui était vraiment pas dangereux, parce que quand on voit le nombre réel de victimes, c'est pratiquement insignifiant. On voit comment un petit virus comme ça a pu paralyser le monde qui est justement beaucoup trop interconnecté, interdépendant, avec toute notre gestion en flux tendu. Là, on a vraiment vu la limite des choses. Et c'est pas la technologie, le numérique et tout ça qui va nous sauver, puisque ça également, ça demande beaucoup de ressources qu'on n'a plus, qu'on n'a pas, qui sont de plus en plus difficiles à récupérer, la production électrique, tout ça. Donc, il va falloir revenir à une vie beaucoup plus simple et réduire la voilure, ça c'est certain.
C'est une très bonne remarque, ça. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much tout le temps, d'ailleurs, qu'on fasse des... On parlait de records tout à l'heure. En fait, de pousser le corps humain tout le temps vers de nouvelles limites. Tu parlais de l'évolution. En 15 ans, on a gagné 40% de plus de temps sous l'eau, hein, tu parlais. Ouais. Donc, c'est énorme. Est-ce que, du coup, dans cette même logique de toujours avoir des records du monde à battre, tu vois, il y a un peu ce côté que tu parlais de rendement aussi sur la partie agricole, que toujours faire plus et que c'est pas, du coup, trop?
Ah, mais c'est exactement le problème de l'être humain. C'est cette compétitivité permanente. Alors, dans la nature, il y a une compétition, bien sûr. Mais le problème, c'est que l'être humain part... En fait, au départ, on était très mal doté comme animal. Hein. On courait très mal, on n'avait pas de force. Donc, en fait, on a compensé tout ça par les capacités cognitives et le développement du cerveau qui nous a permis... De faire les premiers outils. En fait, on a fini par plier l'environnement à notre volonté plutôt que de s'intégrer dedans comme tous les autres animaux. En fait, on est le seul animal qui détruit son environnement et qui est incapable d'avoir des interactions, on va dire, saines avec son environnement. C'est-à-dire qu'on va toujours plus. On va consommer plus, on va... prendre plus d'animaux, on va manger plus, on est incapable de s'auto-réguler. Et le seul être vivant, enfin, et encore, c'est, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'être vivant, enfin oui, vivant, mais pas très complexe, c'est le virus. En fait, l'être humain et le virus, on a exactement la même méthode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va exploiter jusqu'à être capable de tuer notre hôte. Donc c'est extrêmement paradoxal. Mais le virus et l'être humain, c'est les deux seules entités vivantes sur cette planète qui fonctionnent de cette façon. C'est-à-dire qu'on va aller au bout de notre système, de notre écosystème. On voit tous les effondrements de sociétés qu'il y a eu, de civilisations depuis le début de l'humanité, c'était comme ça. En fait, ça a toujours été une crise environnementale qui a précipité la chute de la civilisation ou de la société. Et on se dirige par là, sauf que cette fois-ci, vu qu'on a une civilisation globale sur la planète, qui est complètement globalisée, interconnectée, on a le risque que l'effondrement soit total. Et là, on a vraiment eu une répétition générale avec ce petit virus qui a paralysé tout le commerce, l'industrie, le transport aérien. C'est absolument incroyable. Hein. Quand on regarde, si on prend un peu de recul, on se dit que c'est vraiment incroyable qu'une si petite chose, une petite maladie très peu grave, et puis paralyser la planète.
Le mot répétition générale, je trouve, est très bien choisi. C'est vraiment ça.
C'est un peu ça. C'est malheureusement un peu ça.
Est-ce que dans tes expéditions, avec tout ce que tu as pu découvrir, tu te fais encore surprendre? Par exemple, une espèce que tu ne connaissais pas, parce que tu dois avoir dans ta tête une encyclopédie incroyable, mais du coup, est-ce que tu te fais encore surprendre
bien sûr. Moi, tous les jours, je vais à l'eau, je m'émerveille encore, hein. Même si je n'ai pas vu une baleine gigantesque, une nouvelle espèce. Moi, rien qu'observer, je peux passer des heures à observer un petit poisson qui fait sa vie. Je vais voir comment il fonctionne, comment il va, comment il mange, tout ça. Enfin, je peux observer, hein. Je peux rester des heures à observer un petit truc. Je m'en lasse pas. Je suis toujours émerveillé. Oui. La nature, si on la regarde vraiment, c'est...
Si tu devais perdre un de tes cinq sens, je suppose que les yeux seraient en dernier.
Oui, sans doute. Mais l'oreille est importante aussi. Même dans l'eau, on entend beaucoup de bruit. Les poissons font du bruit. Donc aller sous l'eau, c'est une expérience multisensorielle. Il y a le ressenti, il y a l'eau sur la peau, il y a le bruit, il y a évidemment la vision, mais tous les sens sont interconnectés. Donc, c'est pas seulement une expérience visuelle à l'écran. C'est vraiment une expérience multisensorielle, ça c'est certain.
Est-ce que Frédéric, tu as des gens qui t'inspirent dans la vie? Pas forcément dans le monde marin d'ailleurs.
Alors, j'ai jamais eu trop de héros. Je me rappelle depuis que je suis tout petit, je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses, hein, beaucoup de domaines. J'ai toujours adoré le côté scientifique, le côté philosophique, tout ça. Mais je n'ai pas vraiment de héros. Je suis un peu encyclopédique dans mon approche. Donc il y a plein de gens, évidemment, j'admire pour leur pour ce qu'ils ont fait dans leur discipline, mais je pense que le progrès de la connaissance, c'est un truc très collectif quand même. Et ça, je le vois dans mon domaine parce que quelque part, on n'est jamais le premier à faire quelque chose. Même en sport, hein, je veux dire, si on fait un record du monde en apnée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose avant, qui nous a inspiré. Même, je crois que la première personne qui a battu un record du monde en apnée, il l'a fait parce qu'il a vu quelqu'un qui l'a inspiré. Et je pense que ça, c'est très important, c'est l'émulation. Et dans toutes les disciplines, même les grandes découvertes. Les grandes découvertes, ce n'est pas le fait d'une seule personne. C'est toujours un concours de circonstances et de personnes qui ont amené cette personne à la faire. Donc, je crois beaucoup plus à l'intelligence collective. Pour faire progresser l'humanité, et ça a toujours été le cas. Pour moi, je vois aucun progrès notable à l'humanité qui a été réalisé par une seule personne. L'émulation est super importante.
Bon, on n'aura pas le droit du name dropping, pour reprendre les termes.
Non, là, non, comme ça, non, je vois pas.
Est-ce que Frédéric, t'as des défis secrets qu'on ne connaît pas, justement parce qu'on a plutôt cette version marine de toi? Est-ce que tu as d'autres défis secrets que tu veux partager?
Non, pas vraiment. Le défi, c'est au quotidien, hein, c'est d'essayer de vivre en équilibre avec soi-même et la planète, quoi. Donc c'est le plus difficile en tant qu'être humain. Hein. C'est d'essayer de fonctionner, de bien fonctionner. Donc, de faire le moins de dégâts possible, avoir des interactions les plus positives possibles. Mais comme tout être humain, on est par nature faillible. Donc, on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs. Donc, voilà, hein, je crois que l'idée dans la vie, c'est de naviguer plus ou moins en se donnant un cap. Et se dire, voilà, bah, ma vie, j'aimerais bien qu'elle soit plus ou moins comme ça. Et puis, naviguer entre les orages, les dépressions, les bons moments, et essayer d'arriver au bout en ayant fait ce qu'on avait envie de faire, plus ou moins bien, et d'arriver quand même bien cabossé, un peu au bout du rouleau, hein, parce que il faut se donner à fond dans ce qu'on a envie de faire. Donc faut pas attendre de faire les choses, faut attendre le bon moment. Mais quand on veut faire quelque chose, il faut quand même le mettre en place. Donc, des petits objectifs et aller d'objectif en objectif.
T'as un rêve en particulier, toi? Un rêve qui te tient à cœur, que t'as pas encore accompli?
Non, pas vraiment. Continuer à pouvoir vivre de ce que j'aime et aimer ce que je vis. Comme on disait là, il y a quelques minutes, de pas être blasé, et je pense pas que ça m'arrivera. Ça aurait déjà dû m'arriver. Donc continuer à être capable de se faire plaisir avec des petites choses, hein, du quotidien. Enfin, dans mon cas, le quotidien, en allant en mer, en rencontrant des animaux et tout ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, je pense, jusqu'à un âge avancé. Et de pas nécessairement justement aller dans le toujours plus. Voilà, c'est pas parce que on a plongé avec tel animal que il faut aller plonger avec l'autre, et ainsi de suite, et toujours le plus, le mieux. Ce qui est un peu le problème, hein, de l'être humain. Et le mieux est souvent l'ennemi du bien, pour reprendre cette phrase complètement bateau. Et peut-être, se reconcentrer sur les choses un peu plus essentielles, et se faire plaisir avec ce qu'on a.
Frédéric, ça va bientôt faire une heure qu'on discute déjà. Ça allait assez vite. Donc, peut-être avant de se quitter, trois dernières questions. Si quelqu'un venait à s'intéresser à la plongée, à l'apnée, excuse-moi, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire en premier? Comment tu procèdes par étapes?
Alors, premier conseil, c'est de se former. Notre génération n'a pas eu cette chance, hein, il n'y avait pas de moniteur d'apnée, et c'est nous qui avons dû créer toutes ces formations et tout ça. Et maintenant, en fait, quelqu'un qui démarre l'apnée, avec un cours de 2-3 jours, il va apprendre les bases, il va être étonné de ce qu'il est capable de faire. Donc, se former, trouver un moniteur qui va vous faire un cours d'apnée pour avoir les bases. Et évidemment, par la suite, ne jamais plonger seul, ça c'est la règle de la plongée en apnée, hein. C'est hyper important. Donc, se former et trouver des gens avec qui progresser. Ça, c'est le meilleur conseil.
Des lieux en particulier, peut-être que tu recommandes ou pas? Non.
Alors, les lieux, bah, la planète, elle est vaste. Bah, à nouveau, hein, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour pouvoir faire des belles apnées. Déjà en piscine, on peut se faire très très plaisir. Bon, à l'époque aussi, hein, en Belgique, on allait dans des lacs, dans des rivières. Donc, ah, faut pas nécessairement aller en Polynésie pour se faire plaisir. Y a plein d'endroits pour pratiquer. Donc, je pense que si on a vraiment envie de faire de l'apnée, on va trouver des endroits super pour pratiquer.
Bon, deuxième question, c'est plus pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre? T'as des films, des bouquins, des réseaux sociaux qu'il faut aller.
Alors, oui, les documentaires, ben, il y en a eu, il y en a en ligne. Ça se trouve, hein, assez facilement, je pense, sur le net. Sinon, voilà, bah, par les réseaux sociaux, hein, malheureusement, on est un peu obligé de passer par là de nos jours. Donc, oui, Instagram, Facebook, voilà, j'ai des pages là-dessus. Je poste un peu, voilà, pas énormément. J'essaie de garder une ligne éditoriale un peu de qualité. Et voilà, mais sinon, le site web, hein, j'aime toujours bien, je suis un peu un dinosaure pour ça. Je crois qu'un site web, c'est quand même encore important. Donc voilà, par ces canaux-là, on peut me suivre, mais je suis pas quelqu'un qui suis tout le temps à poster des choses. Voilà, je prends mon temps pour faire les choses. Et c'est pas que je veux rester secret et tout ça, mais simplement, voilà, je trouve que ça perd du sens quand on poste tout le temps des choses du quotidien, de ce qu'on fait. Voilà, je préfère privilégier l'expérience globale et prendre le temps de faire les choses.
Parfait, merci. Dernière question, c'est
Merci à toi.
si jamais tu rencontres avec la technologie, on peut te faire revenir rencontrer Frédéric qui découvre enfin ce que c'est que la compétition, qui a 17-18 ans, qui se lance en tant que tu me disais moniteur de plongée. Qu'est-ce que tu lui dis?
Ah ben, surtout, persévère, quoi. Persévère. Et c'est souvent ce que je dis aux gamins quand si je fais des conférences dans des écoles ou avec des enfants et tout ça, je leur dis, il faut suivre vos instincts. Moi, c'est l'instinct, hein, qui m'a dit que je devais faire tout ça. C'était au fond de moi. Et malgré tout ce que les parents, l'entourage peut dire, à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Voilà, et c'est ça qu'il faut dire aux gamins. C'est suivez votre voie, votre propre voie, suivez pas la voie du voisin. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et idem aux parents, faut pousser les enfants dans la voie qu'ils ont choisie. Je pense que c'est le plus important. Et c'est valable pour les adultes, hein. Si à un moment on sent qu'on a quelque chose à faire, faut persévérer dedans, c'est certain.
Merci Frédéric pour ton temps, j'étais ravi de faire ta connaissance.
Merci.
Et puis on
Merci.
te souhaite bon courage pour la suite des reprises après le confinement sur les reportages et les expéditions.
Oui, ça devrait être.
À bientôt!
À bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.